Bonsoir Marie.
Arnaud, bonsoir. Alors que nous fêtons aujourd'hui les 125 ans de l'ouverture de la première salle de cinéma en France, le 28 décembre 1895, le dernier-né des studios Pixar, Soul, est sorti sur Disney+, et seulement sur Disney+. Nous sommes ce soir avec Thierry Spicher. Bonsoir, vous êtes producteur et professeur de sociologie à l'université de Fribourg. Est-ce que, selon vous, notre consommation de cinéma a ou va radicalement changer?
Radicalement, c'est difficile de savoir, mais ça aura quand même échappé à personne que la pandémie, le lockdown, les différentes fermetures, a accéléré des processus déjà en cours. Et ce qui se passe depuis maintenant 8 ou 10 mois est très, très intéressant. Il y a eu un seul autre lockdown dans l'histoire du cinéma mondial, c'était la grippe espagnole. Il n'y a pas eu de lockdown pendant la Première Guerre, ni pendant la Deuxième, mais pendant la grippe espagnole, oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé à la fin du lockdown de la grippe espagnole? Il s'est passé ce qui va probablement se passer à la fin de cette pandémie, c'est qu'il y a eu une concentration des gros, c'est-à-dire ce qui se passe dans le cas de crise très souvent, c'est que les acteurs principaux bouffent les moyens. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste plein de place pour les petits, qui après ont à peu près un demi-siècle pour redevenir des moyens avant de se faire manger par les gros. C'est difficile de pronostiquer ce qui se passe, mais la France est un cas très très intéressant à cause de l'exception culturelle et de la relatif côté réactionnaire de la défense de l'exception culturelle. C'est-à-dire, la France est quand même le seul pays au monde, il faut attendre 36 mois pour voir sur une plateforme ce qui est passé au cinéma. Dans un pays comme la Suisse, qui est un pays libéral, comme vous le savez, le pays de la démocratie directe et du libre renard dans le libre poulailler, mais des renards en partie végétariens, donc ça va, ça s'appelle le consensus politique. Donc chez nous, on peut sortir les choses quand on veut. Donc il y a plein de choses qui sont en train d'être testées. Mais prenons Saul, prenons Disney. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ben, très clairement, il y a un effet d'aubaine qui est utilisé par les plateformes pour gagner et garder des adhérents. Disney est arrivé en 3 mois à peu près à ses objectifs de fin 2024. Et puis c'est assez stable, mais évidemment les grands enjeux aujourd'hui, ça va être de garder les clients et puis de mettre en place à terme un modèle qui soit économiquement équilibré ou économiquement le plus favorable. Alors il y a deux éléments qui sont très très importants. Au point de vue continental, il y a la négociation en cours en France pour les réinvestissements des plateformes. Et puis le réinvestissement rendu obligatoire fait que la France a été blâmée par l'Europe. Monsieur Macron et ses ministres de la Culture et autres membres du CSA sont fait taper sur les doigts parce que fin septembre, la directive européenne aurait dû être appliquée dans tous les pays. Et puis en France, ce n'est pas prêt du tout. On est en pleine négociation pour savoir comment, combien et à quelles conditions les plateformes devront réinvestir dans ce magnifique modèle d'ingénieur des années 50 qu'est le CNC. Et puis, ce que vous, Français, avez de génial, c'est-à-dire un système hyper complexe, mais à la fin vertueux, et puis à la fin qui avait trouvé son équilibre. Donc, c'est en négociation, ça c'est une chose, on pourra en parler. Et puis, quelque chose qui peut-être est passé un peu sous les radars, c'est que l'administration de Trump a définitivement annulé le décret Paramount. Qu'est-ce que c'est que le décret Paramount? C'est une décision de la Cour suprême américaine qui interdisait les trusts et qui, pour le milieu du cinéma, c'est pour ça que ça s'appelle le décret Paramount, parce que c'était un cas où la Paramount avait porté l'affaire en justice, qui interdisait 3 choses aux studios américains. D'avoir des salles de cinéma, c'est-à-dire d'avoir toute la colonne du cinéma, de faire des packs de vente, et puis l'obligation de pas trop, comment dire, assécher un territoire en ayant des exclusivités trop importantes sur un territoire pour garantir l'accès à un maximum de clients. Or, le décret Paramount a maintenant été abrogé. Donc, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis si vous prenez un peu de recul? Vous avez vu que la Warner vient d'annoncer qu'elle sortait en 2021 tous ses films immédiatement sur HBO Max, en même temps qu'en salle. Après qu'Universal ait déclaré un accord de 17 jours entre le jour de la sortie en salle et le jour de la présence sur la plateforme des films Universal. Donc, on peut voir les choses de différentes façons. On peut se dire, les studios, tout le monde essaye actuellement, comme avec Saul, Disney+, de faire venir des abonnés, de faire de l'argent pendant qu'ils peuvent. Mais on peut aussi se dire, et je pense que cette hypothèse devrait être un peu creusée, qu'au niveau mondial, ce qui est en train de se passer, c'est les grands studios. Ils sont 5, plus les 3 acteurs du numérique que sont Netflix, Apple TV et puis Amazon, sont en train de prendre des positions pour probablement racheter les salles. Le fait que Warner annonce cette année qu'elle va sortir ses films sur plateforme HBO Max aux États-Unis, c'est probablement une stratégie pour affaiblir les salles et les racheter. Parce que très clairement, le modèle reste potentiellement un modèle plus favorable, salle, puis plateforme. Et puis, je pense que Warner aimerait bien racheter les salles parce que si vous suivez notre formidable émission de télévision « Make TV Great Again » sur Internet, vous voyez que tous les 15 jours, on a l'ancien attaché de presse de l'ambassade de France à Pékin qui fait une petite rubrique et qui nous explique comment Studio Canal Plus s'est implanté à Pékin et puis comment, elle nous a expliqué ça il y a 15 jours environ, comment notamment Warner a perdu tous ses investissements en Chine en devant revendre ses salles à un acteur chinois qui maintenant a racheté les salles américaines. Donc je pense que Warner va se venger et les racheter. C'est ce qui se passe aux États-Unis.
Et en quelques mots, juste pour finir, est-ce que tout ce que vous êtes en train de nous décrire ne va pas changer fondamentalement la place du spectateur ? Parce que voir un film derrière son ordinateur ou se déplacer et aller dans une salle de cinéma, c'est quand même pas la même chose.
Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de le voir à la télé. C'est pas la même chose que plein de choses. Moi, je suis pas Nostradamus, mais le risque que le cinéma redevienne un événement un peu de foire et particulier, avec par exemple plus que des immenses salles prestigieuses. Il y a quelques années, dans un symposium, Spielberg et Cameron qui discutaient avaient d'ailleurs pronostiqué ça comme risque. C'est-à-dire que le cinéma, ça devient un peu comme l'opéra. On se déplace plus que pour des très gros trucs, genre on va écouter le cercle des Nibelungen, on paye très cher, on va à Bayreuth, et puis c'est ça qu'on fait pendant l'année. Donc il y a un risque que ça redevienne un événement spectaculaire unique, qui est plus qu'en gros que des avant-premières, énorme, prestigieuse, avec un cast complet. Puis après, on vend les films sur une plateforme. C'est un risque. On peut aussi penser que l'expérience de la salle, le fait d'aller en salle, de partager des émotions, est quelque chose de si particulier et de si unique qu'elle va durer. Et puis, spécifiquement par rapport à la France, comme je le disais, on négocie actuellement les cascades, c'est-à-dire les durées d'utilisation des films entre la salle, la télévision payante, la télévision hertzienne, la VOD, la DVD. Et puis, probablement, la négociation va se terminer, si on pronostique un tout petit peu, si on suit les analystes, sur quelque chose comme une fenêtre de 6 mois entre la salle et la VOD. Mais le reste du monde, ça va pas être comme ça. Le reste du monde, les fenêtres vont être concomitantes probablement, peut-être quelques pays en Europe. Donc, il y a deux hypothèses pour la France, avec cette exception culturelle, si elle reste ainsi. C'est que la France devient une sorte de tiers-monde, où les films américains ne sortent plus parce qu'il vaut mieux ne pas sortir en salle pour pouvoir sortir en plateforme, ou au contraire, la France devient le terrain expérimental où les films sortent avant, 6 mois avant ailleurs, pour pouvoir sortir en plateforme la même chose qu'ailleurs. Donc, on ne sait pas trop. Si on a peur du piratage, on peut se dire, on fait salle 6 mois avant, mais je crains que la France est un marché trop petit à l'échelle mondiale, et surtout avec les marchés asiatiques, le marché chinois, où il y a à peu près 50 000 salles actuellement ouvertes. Si l'exception culturelle est trop ardemment défendue et a une posture trop conservatrice, ça va être difficile pour l'industrie cinématographique française, parce que sans blockbuster, qu'avec des salles art et essai, le cinéma va devenir un peu comme le théâtre, un ghetto subventionné, et être quand même le dernier endroit où la culture pop trouve la culture légitime, où vous pouvez aller voir Godard et Nolan, où vous pouvez aller voir Godard et Fast and Furious, dans le même endroit, et éventuellement vous croiser et voir, si vous êtes président de la République, tomber amoureux de quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous.
Merci beaucoup, Thierry Spicher.
Et merci à vous, Marie Sorbier.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.